Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'été et l'occasion de réentendre les meilleurs moments d'Accent d'Europe.
I begin every sentence with an apology. Sorry, that's the case, that's just British policy. Probably the case with everything in honesty. I use 10 words when 2 would do honestly. I'm British.
Le harcèlement des femmes. Au Royaume-Uni, ce sont des institutions multicentenaires qui se retrouvent sur la sellette. Les Gentlemen's Clubs, ces clubs privés où l'on se retrouve parfois exclusivement entre hommes pour discuter, boire et fumer, ont la réputation d'être des repères misogynes. L'un d'eux, le President's Club, a voulu pimenter son dernier gala de charité en embauchant des serveuses légèrement vêtues. Les plaintes pour harcèlement sexuel n'ont pas tardé. Les Private Members Club, on en compte une cinquantaine à Londres. Les immeubles sont souvent très chics, tout comme les salons. Mais tous ne pratiquent pas un machisme séculaire. C'est le reportage de Marie Billon.
Sur la très chic avenue centrale Piccadilly, à deux pas de Buckingham Palace, se dresse un grand immeuble victorien. Ce sont les locaux du Royal Air Force Club, un club réservé aux soldats et ex-soldats de l'armée de l'air. Au plafond, cage d'escalier grandiose décorée de tableaux de maître. C'est au premier étage, après avoir passé plusieurs salles réservées à des banquets ultra chics, que nous retrouvons dans l'un des nombreux cafés de l'établissement, David Morris. Il a adhéré au club en même temps qu'il a rejoint l'armée en 1972.
Je me souviens de mon premier jour ici en 1972. J'étais assis dans le coin là-bas. C'était comme être à la maison. J'ai adhéré au club quand je suis entré dans l'armée. C'était et c'est encore un autre chez moi. C'est un style de vie, un endroit pour sociabiliser. Ici, je peux rester pour la nuit, je peux manger, je peux rencontrer des gens. Il y a plusieurs bars. Ce n'est certainement pas un lieu sans alcool. Au sous-sol, il y a même un pub, The Runny Horse. L'ambiance est assez détendue, mais sinon, c'est très formel. Vous avez vu la salle de bal en passant, elle peut accueillir jusqu'à 200 personnes. La reine vient parfois ici, beaucoup de gens importants y viennent.
Le RAF Club est mixte puisque l'armée est mixte, s'exclame David Morris et il trouve ça tout à fait normal. Mais ce n'est pas le cas dans tous les clubs. Le Travelers Club, notamment réservé aux diplomates, n'accepte pas de membres féminins. L'ex-ambassadrice de France au Royaume-Uni, Sylvie Berman, par exemple, n'a pas reçu d'invitation à adhérer quand elle est arrivée à Londres en 2014. C'est l'homme le plus gradé sous elle qui a reçu le Bristol, précise le service de presse consulaire. Jean-Pierre Jouyet, lui, a bien été invité à rejoindre le Travelers Club à son arrivée en tant qu'ambassadeur en 2017, mais il n'a pas répondu.
Hello, my name's Jeremy Strong. I'm professor of literature and film at the University of West London.
Et justement, nous retrouvons Jeremy Strong à quelques encablures du RAF Club sur Piccadilly. Professeur de littérature, il organise parfois des tours touristiques des private member clubs du quartier voisin de St. James.
Well, we're going to do a short walking tour.
En route donc, et le premier arrêt se fait devant une bâtisse géorgienne. Rien n'indique qu'il s'agit d'un club, pas de plaque, un immeuble anonyme, mais il suffit de se hisser sur la pointe des pieds pour distinguer à travers la baie vitrée un salon très chic à l'ancienne, mobilier de luxe et lumière tamisée.
We're outside Boodles, founded in 1762.
On est devant le Boodles, fondé en 1762. C'est le deuxième plus ancien club de Londres. C'est un gentleman's club réservé aux hommes. Il y a même une autre entrée pour les femmes qui se trouve à l'arrière. Je suppose que ça veut dire que les dames peuvent être invitées, mais elles ne peuvent pas utiliser la même porte. C'est assez unique.
Boodles est historiquement affilié au parti conservateur. Juste en face se trouve Brooksies, un club ouvert en 1764 par des politiques de l'autre parti de l'époque, les Whigs, ancêtres des centristes d'aujourd'hui. Mais attention, on ne travaille pas dans ce genre de club. Pas d'ordinateur, pas même de téléphone portable parfois. On sociabilise, on partage des grands vins luxueux et on joue parfois aux cartes. Le deuxième arrêt se fait cette fois devant le doyen des Gentlemen's Club de Londres.
Nous sommes devant le White's, le plus ancien et le plus exclusif des Gentlemen's Club. C'est ici que le prince Charles a fait son enterrement de vie de garçon la veille de son mariage avec Diana. Beaucoup de personnalités historiques ont été membres, notamment l'ancien Premier ministre David Cameron. Son père siégeait même au conseil d'administration. On le sait, Cameron a voulu discrètement mettre fin à son adhésion au club puisque ce n'était pas très bien vu d'appartenir à un endroit qui n'accepte pas les femmes. Je crois qu'elles ne peuvent même pas être invitées, mais il faudra vérifier avec le Whites.
Et nous avons appelé Whites dans ce but. Le club a refusé de répondre à la question, nous renvoyant vers un livre publié sur leur site web, quasiment introuvable sur le net, tellement il est bien caché. Nous ne donnons pas une information qui a déjà été publiée, a expliqué un homme d'un ton sec au bout du fil. Pas de changement de règlement en vue donc, ce sont les membres qui décident, nous répondons. Il va donc falloir se tourner vers Jérémy. Notre guide est membre d'un club 100% masculin depuis 1989. Il préfère en taire le nom, mais il a adhéré à celui-ci sur les conseils et grâce au sponsoring d'un de ses professeurs, car son thème convenait à son choix d'études littéraires. On ne travaille donc pas dans les clubs, mais on se rassemble entre gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Jérémy se sent-il un peu coupable d'appartenir à un club qui n'accepte pas les femmes ?
Non, honnêtement, hein, même si je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde, mais je ne pense pas que les choses puissent changer dans un endroit en le quittant et en le critiquant de l'extérieur.
Jérémy ne détaille pas non plus l'intérêt de tous ces gentlemen à se retrouver entre hommes. Moins de politiquement correct, plus de plaisanterie crue, dit-on. Son ami Ashley le défend en avançant que Jérémy invite le plus souvent possible des femmes dans son club. Cette américaine de 32 ans, elle-même membre d'un établissement mixte, a dîné dans plusieurs clubs 100% masculins, toujours en tant que guest.
Walking in there, I do feel like I'm treading on ground that doesn't belong to me.
Dès que je pose le pied à l'intérieur, je sens bien que j'entre dans un endroit qui n'est pas pour moi. On me regarde avec insistance, mais on me jauge. Je n'ai jamais été harcelée et personne n'a jamais volontairement voulu me mettre mal à l'aise, mais je sens bien que je n'ai pas ma place ici. C'est un endroit construit autour de la masculinité. Les hommes tolèrent la présence d'une femme parce qu'ils savent que c'est pour un temps limité. Je n'ai d'ailleurs accès qu'à certains endroits et je ne peux pas me promener toute seule, sans quoi on m'escortera à ma place. Ma place étant auprès de l'homme qui m'a invité.
Dans le centre de Londres, un club réservé aux femmes s'est ouvert, Albright. Les hommes, cette fois, ne peuvent y pénétrer qu'en tant qu'invités, mais sont traités avec respect, dit l'une des cofondatrices. C'est un club privé pour que les femmes actives puissent se construire en réseau et s'entraider professionnellement sans la présence de ces messieurs.
C'est la flambée des prix sur les logements étudiants au Portugal, la fréquentation touristique en hausse et le nombre d'étudiants étrangers qui augmente de 12% chaque année ont fait grimper les prix des locations à Lisbonne. Seule planche de salut, les logements sociaux proposés par l'université qui pourraient contribuer à réguler un marché qui a perdu le sens de la mesure. Reportage à Lisbonne de Marilyn Darcy.
Le centre d'appel d'Uniplace est polyglotte. Cette agence immobilière s'est spécialisée dans la location de chambres ou appartements aux étudiants étrangers. Vérification de l'état des lieux, garantie financière, prise de contact, une prestation de service très ciblée et un marché en plein boom. Inès Amaral, responsable marketing d'Uniplace.
80% de notre clientèle est étudiante, pour la plupart en licence ou en doctorat. 17 000 étudiants, ça représente 3 millions de nuits et 50 millions d'euros de recettes en loyer pour les propriétaires. En moyenne, ils louent pour un semestre, en raison des Erasmus ou des programmes de ce genre. Il y a 160 millions d'étudiants universitaires qui étudient hors de chez eux. C'est un marché de 400 milliards d'euros avec un fort potentiel de croissance.
Lisbonne, mais aussi Porto, sont très recherchés, mais l'offre y est insuffisante en raison des locations touristiques. Inès Amaral.
À court terme, la location touristique va rapporter plus d'argent aux propriétaires, car le prix de la nuitée est plus élevé, c'est vrai. Mais les dépenses d'entretien, les check-in et les check-out, la gestion des clés, tout ce travail quasi quotidien pour des gens dont ce n'est pas le métier, c'est très compliqué. Nous garantissons 9 mois de location sans problème, et les mois d'été, les propriétaires peuvent faire l'expérience du logement touristique sur Airbnb ou d'autres plateformes.
Les Brésiliens représentent 13% de parts de marché chez Uniplace, devant les Espagnols et les Allemands, 9%, et désormais les Français, 7%. La demande est telle que les prix s'envolent. En moyenne, 400 euros une chambre, la plupart du temps en colocation. Presque le prix d'un deux pièces il y a 5 ans. Près de l'université de Lisbonne, des étudiants s'époumonent pour célébrer la fin du premier semestre. L'une des résidences étudiantes, gérée par l'université, se trouve juste en face du campus. Construit dans les années 50, le bâtiment offre des chambres spacieuses mais au style daté. Pour Carlos Mesquita, responsable des services sociaux de l'université, il est nécessaire d'investir.
Nous disposons de 900 chambres en état sur un total de 1200, mais on va rapidement porter l'offre à 2000 chambres. Pour l'instant, ce sont les étudiants défavorisés économiquement qui ont la priorité et le barème est avantageux. Mais on a une marge pour attirer des étudiants plus fortunés qui ont des exigences par rapport à la qualité offerte et qui peuvent payer. Alors ce sera forcément plus cher.
Le prix de la chambre en résidence universitaire est calculé sur l'indice social minimum fixé chaque année au Portugal. Il va de 73 euros à 160 euros. Des prix très compétitifs face aux 400 euros en moyenne exigés dans le privé. Alors que le nombre d'étudiants nationaux diminue, ils étaient 390 000 au début du siècle, et ne sont plus que 362 000, le nombre d'étudiants étrangers, lui, augmente. Il est passé de 38 500 à 42 000 entre 2016 et 2017. La fac a décidé de construire de nouvelles résidences.
En élargissant notre offre, nous visons la régulation du marché. Si nous louons moins cher et pouvons faire face à la demande, cela limite la spéculation des privés, car ils devront offrir des services qui correspondent au prix qu'ils veulent pratiquer. Si c'est 400 ou 500 euros la chambre, ce prix doit être justifié. Nous ne voulons pas être des concurrents, mais nous voulons empêcher les dérives. Au service des étudiants nationaux ou étrangers et qui ont besoin de se loger.
À l'heure des cours, de rares étudiants en profitent pour faire tourner les machines à laver. Les prix avantageux pratiqués par le secteur public sont un atout important pour quelques-uns des 6000 étudiants étrangers du campus. C'est le cas de Daniel, un Erasmus polonais.
Si j'avais pris un logement dans le centre-ville, je ne pourrais absolument rien faire, car pour moi, tout est cher. Alors le fait d'être en résidence me permet de voyager, de me rendre en ville pour rencontrer les gens et faire ce que je veux. Trouver cher ou pas, ça dépend des revenus de l'étudiant.
Son amie, Ida, est satisfaite de son choix et des conditions offertes.
J'ai choisi de vivre ici pour les gens d'abord, pour la météo aussi. Rien à voir avec la Pologne, c'est bien plus chaud. Et surtout pour le contexte académique, car nous sommes étudiants en ingénierie et c'est nettement mieux ici. Bien sûr, ce n'est pas parfait, mais en réalité, c'est un peu comme chez nous. Les critères sont identiques à ceux de la Pologne. Il y a tout le confort, je suis très heureuse.
Alors que dans le centre-ville, des étudiantes chantent pour récolter de l'argent pour une bonne cause, l'heure est à l'inflation sur le marché immobilier étudiant. Un marché porté par une population étudiante étrangère qui augmente de 12% chaque année.
Livre. Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan, le défi est de taille. C'est aussi le titre du livre de Guillaume Perrier qui paraît chez Actes Sud. L'ancien correspondant du Monde en Turquie dresse un portrait complet et contrasté du dirigeant turc pour mieux analyser ses multiples volte-face sur l'Europe notamment. Comme il l'a expliqué à Catherine Roland, c'est aussi une enfance à la dure dans un quartier populaire d'Istanbul qui a contribué à forger sa personnalité.
Recep Tayyip Erdogan a grandi dans cette cuvette hein, sur les collines de Kasım Pasha et ce qui a forgé sans doute une partie de son caractère, c'est d'abord la relation à son père qui était un marin extrêmement tyrannique, brutal, et Recep Tayyip Erdogan dans ses interviews raconte d'ailleurs quelques anecdotes. Quand il allait un peu trop loin dans la défiance, il était suspendu par les pieds au plafond jusqu'à ce qu'il puisse se calmer. Donc voilà le genre d'enfance qu'a vécu le président turc.
Du coup, ça forge une personnalité complexe. Cet homme n'a pas d'idéologie, pas de ligne politique. En 2003, il semble pro-européen, ouvert à la démocratie. L'ancien islamiste dit qu'il a changé. Puis 5 ans plus tard, on le trouve en train de vilipender l'Occident. Et là, il joue vraiment le rapport de force.
Oui, il y a une inversion. Alors c'est vrai que sur le premier mandat, il a besoin de montrer ce visage moderne, libéral, pro-européen. Il fait beaucoup de réformes qui vont dans ce sens d'ailleurs. Il y a un espoir très important qui naît à ce moment-là. Et puis à partir du deuxième mandat, effectivement, il y a d'abord un rejet de la part des Européens de la candidature turque jusqu'à l'adhésion à l'Union européenne. Et de ce fait, Erdogan va lui aussi être poussé à se retrancher dans une forme de nationalisme, d'islamisme. Finalement, on s'aperçoit que le dossier européen des deux côtés est devenu un enjeu interne à chaque fois, et ce qui a poussé chacun à rester campé sur ses positions.
Ce qui déroute, oui, aussi, c'est qu'on peut être son allié aujourd'hui, son plus féroce ennemi le lendemain, et on le constate aujourd'hui avec Fethullah Gulen, l'islamiste, qui est considéré comme l'auteur de la tentative de coup d'État de juillet 2016.
Il y a effectivement en ce moment le cas de Fethullah Gulen qui est emblématique. Fethullah Gulen a permis à Erdogan de contrôler l'appareil d'État turc. Cette alliance leur a permis d'éjecter les militaires de la scène politique. Et aujourd'hui, c'est une guerre totale entre les deux hommes et leur réseau. Donc ça a été la même chose dans un certain nombre de dossiers. Le rapport à l'Union européenne a suivi à peu près le même chemin. Erdogan s'est estimé trahi par les Européens et donc aujourd'hui n'a pas de mots assez durs. Il parle de pratiques nazies quand il parle de l'Union européenne. Erdogan est quelqu'un d'impulsif, donc ses colères sont très fortes, mais elles retombent aussi très vite.
Oui, alors des colères qui sont peut-être aussi le symbole de la virilité dont il joue, face justement à son électorat. Il est très populaire auprès des petites gens.
Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que ce caractère un peu impulsif plaît beaucoup. Le côté un peu machiste, roulant des mécaniques sur la scène internationale, ça lui garantit une certaine popularité. Maintenant, les électeurs turcs ne sont pas non plus des idiots. Hein. Ils voient aussi que cette violence masque une faiblesse, hein, une sorte de vide autour d'Erdogan qui montre un pouvoir qui n'est pas si sûr de lui.
Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un véritable islamiste? Ou est-ce que c'est malgré tout plutôt un grand pragmatique qui se tourne finalement vers l'idéologie qui lui convient à coup de sondage, en fait, en fonction de ce que veut la population?
Oui, je pense que c'est plutôt la deuxième option. Alors Erdogan, évidemment, vient d'un un parcours au sein de partis islamistes. Hein, depuis sa prime jeunesse jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a ce parcours, qui vient de cette école de pensée, mais qui a bâti son succès sur le pragmatisme, effectivement, et en s'adaptant à chaque situation, en jonglant avec les influences idéologiques et les circonstances. Erdogan, ce qui fait sa force aujourd'hui, c'est plutôt ça que le fondement islamiste de son idéologie. Il a réussi à diffuser quand même largement ce courant de pensée dans le système éducatif, dans la vie quotidienne des Turcs. La religion est beaucoup plus présente aujourd'hui, mais ça n'est pas forcément le pilier central de sa politique.
Alors finalement, est-ce que c'est facile d'entrer dans la tête d'un homme qui semble tellement imprévisible et déroutant?
Je dirais que ça n'est pas un ovni sur la scène politique turque. Il est aussi le produit d'une histoire collective, le produit de l'évolution de la politique turque, le produit de 4 coups d'État militaires qui ont eux-mêmes transformé les partis islamistes pour les faire s'adapter au jeu démocratique. Donc il incarne aujourd'hui une sorte de synthèse entre le nationalisme et l'islamisme. Je pense qu'Erdogan a une haute idée de sa place dans l'histoire et qu'il lui importe de se resituer dans la continuité aussi bien des sultans ottomans que de Mustafa Kemal.
Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan de Guillaume Perrier, publié aux éditions Actes Sud. L'âme de Belgrade est-elle nichée dans la crème de ces petits gâteaux? En tout cas, dans la capitale serbe, la tradition vit dans ces pâtisseries centenaires qui proposent des douceurs aussi bien austro-hongroises qu'orientales. Une grande histoire sucrée que nous raconte Laurent Gélin.
Belgrade évolue et se transforme au gré des immeubles modernes qui sortent partout de terre, mais dans les petites rues de la capitale serbe se cachent encore des plaisirs sucrés qui permettent l'espace d'un instant d'arrêter le temps. Il suffit de passer la porte de l'une des vieilles échoppes défraîchies qui continuent de réinventer chaque jour l'art de la pâtisserie. Depuis 3 ou 4 générations, les maîtres pâtissiers de Belgrade se transmettent des recettes ancestrales. La boutique Orient, au 36 de la rue Balkanska, ne dispose que de 2 ou 3 tables rondes et de quelques chaises, mais elle est réputée pour ses champita, ses gâteaux moelleux à la crème pâtissière, et pour sa boza, cette boisson fermentée à base de céréales très populaire sous l'Empire ottoman. Longtemps ville frontière du sultan d'Istanbul face à l'empire des Habsbourg, Belgrade s'est enrichie de multiples influences culinaires. La pâtisserie de Sacha Jovanovic, créée en 1936 par son grand-père originaire de Tchéquie, propose par exemple de délicieux macarons qui auraient pu être servis dans les salons de Vienne au XIXe siècle ou des glaces au pavot à la cannelle et à l'amande. Un peu plus loin, le salon de thé Dorchol est propriété de la famille Aydini, originaire de Macédoine, qui s'est faite une spécialité des Toulumba, ces gâteaux au miel que l'on trouve de l'Égypte aux Balkans. Pas besoin donc de pousser la porte de grands restaurants pour trouver l'âme de la capitale serbe. Il suffit juste de déambuler et de se laisser tenter par ces petites pâtisseries qui permettent d'apaiser bien des maux de l'âme.
Les meilleurs moments d'Accent d'Europe à retrouver demain sur RFI.